heureux de pouvoir vous saluer ce matin. La joie d'accueillir aussi le pasteur Victor, qui est d'origine russe et qui travaille en Allemagne. Bienvenue, bienvenue à chacun et chacune. Nous saluons aussi chaleureusement tous les amis qui nous suivent sur Internet et qui sont encouragés par l'écoute des messages de l'été. Nous sommes à Orléans, à Paris, à Nice, à Bruxelles, où nous recevons régulièrement des informations de Genève, aux Antilles, en Afrique, à Madagascar, ou que vous soyez à Potsdam. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous chrétiens partagent régulièrement le pain et le vin, comme Jésus l'a demandé. Et maintenant, on va s'interroger un petit peu sur la dimension de la Sainte-Seine. Comment est-ce que le premier disciple vivait ce temps de Sainte-Seine? Que représente la Sainte-Seine? Quelle importance devons-nous lui accorder, et personnellement, mais aussi en tant qu'Église? Nous voulons replacer la Sainte-Seine à sa juste place. Replacer la Sainte-Seine à sa juste place, c'est aussi replacer le Seigneur à sa juste place. Et je suis tellement heureux ce matin d'avoir vécu ce temps de louange avec vous. Et nous l'avons compris depuis quelques semaines. Le Seigneur nous interpelle, nous attire à lui, nous introduit dans sa présence. Et nous laisse la place au Saint-Esprit pour qu'il puisse aussi en nous restaurer, guérir, corriger, reprendre et qu'il ait vraiment toute sa place. Aujourd'hui, je me propose donc de redécouvrir avec vous le sens profond de la Sainte-Seine. Pourquoi et comment vivre la Sainte-Seine? On fait une première lecture dans la lettre des Corinthiens, chapitre 11, 1er aux Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. Je lis dans la version seconde 21. Les Corinthiens 11, verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce récit de l'apôtre Paul est le plus ancien document que nous ayons sur le sujet de la Sainte-Seine. Il est écrit en l'an 51 et il donne des instructions à l'église de Corinthe sur la manière de prendre le repas du Seigneur. Et il souligne l'autorité de son enseignement par cette parole, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce texte est écrit bien avant les évangiles. Les lettres de l'apôtre Paul ont été écrites avant les évangiles. Alors que signifie le mot Sainte-Seine? Le mot Sainte-Seine vient du latin Sena. Les hispanophones, les espagnols ou les italiens, c'est aussi cela pour prendre le souper, et c'est le repas du soir, bien souper. Et tout le texte qui nous parle de la Sainte-Seine font référence à un repas. Matthieu 26, par exemple, nous dira, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir remercié, le brisa, donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Dans Luc, au chapitre 22, verset 14, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il prit du pain et après avoir remercié, il le rompit et le donna. Encore un autre texte dans Marc au chapitre 14, verset 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir remercié, le brisa et le donna. Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Pour beaucoup. Donc la Sainte-Seine se prenait dans le cadre d'un repas. On l'appelle d'ailleurs aussi le repas du Seigneur, ou bien la table du Seigneur. Et dans le livre des Actes des Apôtres, on appelle la Sainte Cène la fraction du pain, faisant allusion au moment où on brise le pain, où on rompt le pain. Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ou bien encore dans Acte chapitre 20, on nous donne un petit peu un fil dans la vie de l'Église. La première Église, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Le premier jour de la semaine étant le dimanche. Alors, quelle est vraiment l'origine de la Sainte-Cène? C'est Jésus qui a institué la Sainte-Cène au cours du dernier souper avec ses disciples, ses amis, pendant qu'ils mangeaient le repas de la Pâque juive. Et ce repas de la Pâque juive, qu'on appelle Pessah, l'action de Passion, était destiné à rappeler la sortie d'Égypte, la libération de l'esclavage en Égypte. Et dans Exode 12, vous avez le récit complet où on voit que le chef de famille prenait un agneau, devait sacrifier un agneau, et puis il devait répandre le sang sur les linteaux et sur les montants des portes pour que lors de ce dernier passage, l'ange de la mort qui passait sur l'Égypte ne touche pas le fasté de mal à cette famille qui vivait dans cette maison. Et ce n'est pas hasard si Jésus l'a fait à ce moment précis, car Jésus est devenu pour nous l'agneau de Dieu sacrifié, pour le pardon de nos péchés. Il a racheté pour Dieu par son sang des hommes, des femmes, de toute tribu, de toute nation, de toute langue, de tout peuple, pour en faire un royaume, de prêtres sacrificateurs pour Dieu son Père. Et voilà pourquoi c'est tellement important de se souvenir de ce qu'est la Sainte-Cène, de ce qu'elle représente. De même que les Juifs se souviennent au cours de ce repas de Pâques que l'esclavage est terminé, ils sont libérés, nous sommes libres, c'est ce que dit la Pâque juive. De même, ceux qui sont à Jésus-Christ se souviennent. Ils sont pardonnés, qu'ils sont délivrés, qu'ils sont libérés, qu'ils sont purifiés, qu'ils sont sauvés par le sacrifice de Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avertit les Corinthiens. Et en le faisant, nous prenons acte aussi de cet avertissement, c'est quelque chose de solennel. Il dit aux Corinthiens de ne pas prendre la Sainte-Cène à la légère, et de le faire avec respect, avec vénération et avec reconnaissance. Alors, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin, aujourd'hui, de redécouvrir le sens profond de la Sainte-Cène. Pour certains, la Sainte-Cène est devenue un rituel, un rite religieux. Ça n'a jamais été le cas, en tout cas dans la Bible. D'autres adorent la Sainte-Cène qu'ils adorent le Seigneur. On pourrait dire qu'ils sont devenus sémolantes. C'est de la sémolatrie. Comme on peut parler de l'idolatrie, comme certains peut-être adoraient la Bible, le livre. Ça peut devenir de la bibliolatrie. Et on adore le livre plus que le Seigneur. La parole de Dieu plus que le Dieu. Il y a là un déséquilibre. Et je pense que c'est important que nous puissions réfléchir à cela, à la place que nous accordons à la scène, à la place que nous accordons aux choses que nous pratiquons. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? C'est bon de s'arrêter, de se poser et de se poser les bonnes questions. Certains prennent la scène de façon routinière, de façon machinale, pas habituée. Alors évidemment, les conditions idéales ne sont peut-être pas toujours réunies pour se concentrer. J'ai noté que notre frère Éric ce matin nous a dit plusieurs fois, concentrons-nous, restons concentrés. Et le plus, c'est cela, c'est le moment où nous nous concentrons sur le Seigneur, sur sa personne, sur ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Et non pas sur le prochain chant qui va suivre, ou sur le repas de midi, les amis qu'on va accueillir, qu'on va recevoir, etc. Nous devons être toute, Seigneur. Mais bon, n'ai pas besoin que nous essayons de retrouver plus de profondeur, plus de respect, plus de révérence, plus de Seigneur pour ce que Jésus a institué. La Sainte Seine, c'est une ordonnance. Comme le baptême, c'est une ordonnance, ce n'est pas un sacrement. Un sacrement, c'est quelque chose qui contribue au salut d'une personne. Mais nous croyons en tant que chrétiens évangéliques que le sacrifice de Jésus est pleinement suffisant. Il n'y a plus rien à ajouter. Sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. C'est ça le message évangélique, le message biblique. Il n'y a donc pas besoin de rajouter quoi que ce soit au sacrifice de Jésus pour être sauvé. L'église de Corinthe comptait des milliers de personnes. C'était une église en pleine croissance, et c'était une église qui était devenue une référence pour beaucoup d'autres églises. Et la Sainte Seine se faisait au cours d'un repas en commun pour rapporter, où chacun apportait, pardon, ses provisions. Et pour marquer vraiment le coup, l'importance qui était donnée à cette église, l'apôtre Paul intervient de façon solennelle. Et cette scène avait lieu au cours des agapes. C'est un repas d'amour, un repas fraternel. Mais le manque de considération de certains à l'égard des autres avait entraîné des désordres. L'apôtre parle de ce désordre. Déjà dans les premiers chapitres, il rappelle les péchés des Corinthiens pour montrer qu'il y avait un certain nombre de règlements. Et il prenait également la Sainte Seine de manière indigne. Donc, pour entrer dans le vif du sujet ici, pour mettre en évidence cette Église des Corinthiens, je vous lis quelques extraits qui apparaissent ici dans 1 Corinthiens 11, verset 17. Je ne peux pas vous féliciter, dit l'apôtre Paul, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. C'est vrai. 1 Corinthiens 11, 18. J'apprends qu'il y a parmi vous des divisions. Schismata, qui a donné le mot schisme, séparation, division. 1 Corinthiens 11, 21. Dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son repas, de sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Et verset 22, il dit : méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien. Sur ce point, je ne vous félicite. Alors, les propos peuvent paraître sévères, mais je crois que c'est le cœur brisé que l'apôtre Paul reprend et corrige le Corinthien. Justement, à cause de l'influence de Corinthe et de cette église pour beaucoup d'autres églises, nous nous réunissons autour de celui qui a donné sa vie pour nous, comme le dit l'apôtre Paul. Donc, respect, révérence, et puis reconnaissance. D'ailleurs, l'un des mots pour Sainte-Seine s'appelle aussi l'Eucharistie. Eucharistéo, ça veut dire être reconnaissant, remercier. Et Paul va expliquer aux Corinthiens que la participation à Sainte-Seine est donc une affaire sérieuse. Nous devons, dit-il, discerner le corps du Seigneur. Alors, de quel corps s'agit-il? Bien sûr, le corps donné, le corps de Jésus. Sa mort sur la croix, son corps qui était brisé pour nous, c'est le sacrifice de Christ, mais le corps de Christ, c'est également l'Église, c'est nous. Il est la tête et nous sommes le corps de Christ. Les membres, chacun pour notre part. 1 Corinthiens 12, 12, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un, un seul corps, ainsi en est-il de Christ, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et l'apôtre Paul dira, ne méprisez pas le corps du Seigneur. Alors, pour savoir un petit peu comment les premiers chrétiens vivaient la Sainte Seine, c'est important de revenir dans Actes chapitre 2, au tout début du livre des Actes, vu l'Église se constituer, se rassembler, se réunir. Ils étaient dans le temple, il y avait des grands rassemblements, et puis ils se retrouvaient également dans les maisons chez les uns et chez les autres. Et au chapitre 2, verset 44, il nous est dit « Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils ont partagé le produit entre tous. En fonction des besoins, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Au début, il y avait des agapes. Donc, ces repas d'amour, ce repas fraternel. Il y avait des moments de partage, des temps de générosité. Chacun donnait. Celui qui avait beaucoup en donnait, celui qui avait moins. Et ainsi, les biens, les richesses étaient réparties selon les besoins. Mais 20 ans plus tard, chez les Corinthiens, il n'y avait plus de partage, il n'y avait plus de générosité. C'était chacun pour soi. L'esprit de la société, l'esprit de partage, l'esprit de générosité avait disparu. C'était chacun pour soi. Et l'apôtre Paul nous dit, si vous prenez la Sainte Cène indignement, sans discerner ce que le Seigneur a fait pour vous, sans discerner aussi le corps de Christ, eh bien, vous prenez un jugement contre vous-même. Et le Corinthien était divisé, il y avait des querelles, il y avait des jalousies, il y avait de l'orgueil, du non-pardon, manque d'amour, manque de générosité. Eh bien, tout cela finit par attirer le jugement. Et au chapitre 11, il s'arrête. Il dit, bien, posez-vous. Il finit par dire, attendez-vous les uns aux autres. Avec les anciens de l'Église, on s'est posé une question sur la Sainte Cène. On a réfléchi, on a prié. Ça fait des semaines qu'on en parle. Et on se dit, on a besoin de prendre du temps. On a besoin de vivre une autre dimension avec l'Église. Et vous le voyez bien depuis quelques semaines. Saint-Esprit nous parle. Il est à l'œuvre dans ce qu'on appelle la sanctification, c'est-à-dire dans le sens de la maturité. Il veut être plus proche de son Église, il veut bénir, il veut accompagner, il veut nous voir grandir, il veut purifier son Église également, et nous voulons y être visibles. Que attendez-vous les uns les autres? Ce matin, c'est aussi un temps. Nous attendons les uns les autres. Nous louons le Seigneur ensemble, nous prions les uns les autres. Et nous voulons prendre du temps pour célébrer le Seigneur. Alors, la Sainte Cène est un moment destiné à faire mémoire, pour se souvenir. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi, faites ceci en souvenir de moi. Et en le partageant, nous nous rappelons la vie de Christ, nous nous rappelons sa mort, nous nous rappelons sa résurrection, et nous nous rappelons la promesse de son c'est présent dans le moment de la Sainte Cène. La Sainte Cène, c'est aussi un repas de communion avec le Seigneur. Le nombre de fois où vous pouvez noter dans la Bible, ils étaient à table. On a l'impression qu'ils passent leur temps à table. Ils mangeaient. Tout le monde dit que Jésus est un mangeur et un buveur. Et moi, ce qui me frappe, dans la conduite, le comportement, le témoignage de Jésus, c'est que le premier de tous les miracles, il a changé l'eau en vin. Alors, permettez une parenthèse ce matin, mais je pense qu'à cette fête-là, ça devait déjà battre son plein. On était certainement déjà un peu gai. Certainement. Et Jésus a fait tout le coup. Il y avait la quantité, 6 jarres qui pouvaient faire 100 litres chacun, 6 hectares. Hein, on a des vignerons parmi nous, 6 hectares, 600 litres, qui devaient faire à peu près 800 bouteilles. Il y avait la quantité et puis il y avait la qualité. Et celui qui était à l'ordonnance du repas, d'habitude, on donne le bon d'abord et puis on garde la piquette pour la fin. Toi, t'as fait le contraire. Alors, est-ce que ça veut dire que Jésus est en train de nous dire, allez-y, faites comme vous voulez, buvez. C'est pas ça qu'il est en train de dire, parce qu'il y a d'autres textes dans la parole de Dieu, et la parole s'explique toujours par la parole. Mais, au Éphésiens chapitre 7, ne vous enivrez pas de vin. Donc, il y a de l'équilibre. quand il faut jeûner, on jeûne, et quand il faut manger, on mange, et quand il faut boire, on boit, raisonnablement, avec modération, témoignage chrétien oblige. C'est un moment de communion, un moment de connexion, disons tout à l'heure, un moment d'échange. Une communion qu'on est profonde, comme une amie. Je partage, je reçois, je donne. Je change. C'est un moment très, très, très fort. La Corinthiens 16 me dira la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ. La sanctuité, c'est un repas d'unité. Jésus la tête, nous sommes le corps. Et l'apôtre Paul le rappelle dans la Corinthiens 10, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. C'est un repas d'unité. Tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ appartiennent à tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Comme une grande famille, c'est un moment fort d'unité. La Sainte-Seine, c'est aussi un repas de son grâce. Il prit le pain et remercia Dieu. Il prend la coupe et remercie le Seigneur. C'est une célébration, un temps fort, où nous nous souvenons de la mort, bien sûr, mais aussi de la victoire de Jésus-Christ sur le péché et sur le mort. Nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il le vive. Le repas que nous allons prendre dans un instant diront Seigneur, tu vas venir bientôt. Malgré ma terre, viens, Seigneur Jésus, avec toute l'Église. Mais ce n'est pas seulement le repas que nous prenons ici. Avec ce repas, nous sommes liés à l'Église de Jésus-Christ dans le monde entier. La famille de Dieu est énorme, elle est grande, elle est mondiale. Et nous sommes unis au corps de Christ. Ici, nous sommes une petite partie du corps de Christ. Mais au travers de notre communion avec Dieu, nous sommes unis au corps de Christ dans sa globalité, dans le monde entier. L'Église est universelle. Et la Sainte-Seine, elle est porteuse d'espérance. Il y a des choses qui peuvent se passer dans la Sainte-Seine. Il y a de magique dans la Sainte-Seine. Mais il y a des choses qui peuvent se vivre et se passer dans la Sainte-Seine. Ça reparle de bénédiction. Si nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes bénis. C'est un moment fort où l'Église se rassemble autour de son souverain et de son Seigneur. Elle est une figure du pardon, elle est une figure de la restauration, elle est une figure pour notre restauration, réconciliation. La personne nous dit tout est possible. Tout est possible. Je ne sais pas pourquoi certains ne sont pas guéris, mais on peut guérir dans le cadre de la Sainte. On peut recevoir une parole de la Sainte. Parce que quand Jésus est là, lorsqu'on se souvient de lui, qu'on est uni autour de cette procession naturelle, fait tout ça pour moi, eh bien, il est là de manière particulière. De manière particulière. Différentes nationalités, différentes cultures, différentes ethnies, c'est incroyable. Il y a quelques années, je prenais la Sainte-Seine, j'étais jeune missionnaire, ça fait bien des années maintenant. J'avais 21 ans. Nous étions sous nationalité, nous traversions le Sahara, le désert, nous étions entrés dans le Sahel, on était dans le nord du Burkina Faso. Et nous avions apporté l'évangile en Afrique. C'était le tout premier voyage missionnaire de jeunesse en mission. Tout premier voyage missionnaire en Afrique francophone. Et nous visitions des églises, des hôpitaux, des universités, des lycées, pour annoncer Jésus. On était partout pour annoncer l'Évangile. Jésus qui sauve, qui délivre, qui change les vies. Mais nous étions divisés. Et bon, les voyages, dans les premiers jours, on rêve d'aventure, c'est merveilleux. Mais au bout de quelques temps, à force de vivre les uns sur les autres, les uns avec les autres, alors, au cours du repas de midi, notre pique-nique, il s'est détaché un gros nid d'abeilles d'un baobab. Et pour ceux qui connaissent l'Afrique, ceux qui sont en Afrique, vous savez ce que c'est qu'une abeille. L'Afrique, ce n'est pas les petites mouches de chez nous, c'est énorme. Et il s'est abattu un nid d'abeilles sur toute notre équipe. Et l'une des filles a été, je me souviens plus, de plusieurs dizaines de piqûres d'abeilles. C'était juste énorme. Et plusieurs avaient gonflé de tous les côtés, dans le visage, sur les bras, un peu partout. Et c'était catastrophique. Catastrophique. Et figurez-vous que par hasard, justement, à ce moment-là, arrive un service sanitaire avec des médecins. Découvre la scène et nous disent oh, c'est fini, là il n'y a plus rien à faire. Celle qui avait l'idée qui avait pris une cinquantaine ou une soixantaine de piqûres, peut-être même plus, je ne me souviens plus exactement, était énorme. Elle avait gonflé d'une manière incroyable. Mais nous, nous avons compris tout de suite, instantanément, Seigneur, ça c'est toi qui es en train de nous parler. Et pas partir de pour annoncer l'évangile, pour annoncer la paix de Jésus. Annoncer l'amour de Jésus, on était divisés, séparés, c'est terrible ce qu'on était en train de vivre en tant qu'équipe. Et là, c'est un rappel à l'ordre. Et spontanément, c'est incroyable. Quand on sent que c'est un jugement comme ça, spontanément, la clé à Dieu, le Seigneur partout. On s'est demandé pardon les uns les autres. On s'est courbé devant le Seigneur, on s'est humilié. On a demandé pardon à Dieu. Et cette jeune fille n'est pas morte. Elle a été restaurée. Les médicaments sont arrivés, etc. On a pu s'en sortir. Mais c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Jamais. On a vécu, c'est nous qui pouvions le dire, parce qu'on l'a vécu de l'intérieur, on l'a vécu comme un jugement, comme une correction, si vous préférez. Comme si le Seigneur nous donnait une bonne chaussure. Mais tous les membres de l'équipe s'en souviennent jusqu'à aujourd'hui. C'est un moment fort. Puis après, on a pris la Sainte Seine ensemble. Et bien, cette Sainte Seine-là, elle avait un goût particulier. De communion avec le Seigneur et de communion les uns avec les autres. Alors, il n'y a rien de magique dans la Sainte Seine. Avec tout le respect que nous portons aux autres confessions chrétiennes, les chrétiens évangéliques ne croient pas à la transubstantiation, c'est-à-dire que les éléments se transforment littéralement en chair et en sang de Jésus. Nous ne croyons pas cela. Cette coupe est simplement une image, elle représente le sang, mais il n'est pas le sang lui-même. Nous ne croyons pas non plus à la consubstantiation, comme la présence de Dieu était dans les éléments ou avec les éléments. Nous croyons simplement que le pain et le vin sont des symboles, sont des images, des figures du corps brisé du Seigneur et du sang versé du Seigneur. Alors, ceux qui prenaient la Sainte Seine à ce moment-là étaient bien sûr les disciples de Jésus, ceux qui avaient fait la paix avec le Seigneur, ceux qui le suivaient, ceux qui croyaient en lui. Ceux qui lui avaient remis leur vie, il a donné sa vie pour nous, et nous donnons nos vies pour lui. Et c'est ainsi que, en vrai disciple de Jésus-Christ, nous partageons le pain et le vin. Certains posent la question, mais à quelle fréquence les premiers chrétiens prenaient-ils la scène? Alors au début, c'était chaque jour. Acte 2, 46. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils montaient le pain dans les maisons. Alors, la plupart du temps, ils le faisaient dans les maisons. Après quelques années, ils prennent le pain et le vin une fois par semaine. Acte 27, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Et puis, 20 ans plus tard, on arrive à Corinthe, les chrétiens se réunissent au moment des agapes, au cours desquels donc, ils prennent le repas du Seigneur. Et vous trouvez tout cela dans 1 Corinthiens 11, entre le verset 17 et le verset 22. Peut-on dire que la Sainte Seine n'est pas tant une question de fréquence que de cœur. C'est d'abord une question de cœur. Et alors, je termine en disant ce que dira l'apôtre Paul, que chacun s'examine lui-même et qu'il mange. Et puis la Sainte Cène, c'est un moment d'introspection personnelle. Je rentre en moi-même et me dis, mais où en suis-je dans ma relation avec le Seigneur? Où en suis-je ce matin dans ma relation avec l'Église, avec mes frères et sœurs? Mon cœur est-il encore capable de se mouvoir dans la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour moi? Alors, tous les jours, je pouvais pleurer en disant, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Je me sens tellement incapable, tellement indigne, tellement loin de ce que tu voudrais pour moi, et pourtant tu veux. Tu me donnes ta vie pour moi. Je te demande toi. Je me sens tellement seul pour moi. Mais tu me purifies, tu me laves, tu me délivres, tu me sauves, tu me guéris, intérieurement et même physiquement. Mon cœur est-il encore capable de s'y mouvoir au sacrifice de Christ? Où en suis-je dans ma disponibilité, dans ma générosité à l'égard des Seigneurs? Tant de questions que je me pose en prenant la Sainte Cène. Alors tout cela m'amène maintenant à faire une annonce et on va prier dans un instant. J'invite l'équipe à venir sur l'estrade. On va ressentir ce chant, je te donne tout. Ce sont les anciens qui me changent, et avec eux, je suis solidaire des décisions des anciens. Quand vous communiquez cette annonce, parce que justement nous avons réalisé que la Sainte-Cène avait perdu de sa sens profond, avait parfois tendance à être galvaudée, nous voulons lui redonner toute son importance. Nous voulons revenir aussi à une pratique qui sera une pratique biblique, mais un rituel au retournement. Et nous voulons prendre aussi davantage de temps dans la louange et dans la prière et nous poser davantage plutôt que de courir après le temps. Bien évidemment, lorsque nous sommes dans le culte, il y a aussi des enfants, il y a les petits. Il y a tout un programme qui est mis en place que nous voulons bien sûr aussi respecter, mais nous devons prendre du temps. Alors nous avons décidé avec les anciens, ne me coupez pas la tête, ne vous pas vous plaindre à mon épouse, elle n'y peut rien, c'est pas de sa faute, venez nous parler. Nous avons décidé avec les anciens de prendre la Cène une fois par mois. Le premier dimanche de chaque mois. Et nous voulons permettre aussi au groupe de maison de vivre le temps de Sainte-Cène dans les groupes de maison. Et le groupe spécifique de prendre du temps pour vivre la Sainte-Cène dans l'esprit, justement, des premiers chrétiens. L'esprit du Nouveau Testament, l'esprit du livre des Actes des Apôtres. Et puis, certains sont sensibles à la dimension de l'alcool. Et nous voulons aussi nous être sensibles à cela. Il y a des personnes parmi nous qui ne peuvent pas prendre de vin. Pas à partir d'aujourd'hui parce que nous ne sommes pas encore équipés, mais dès la prochaine fois, nous aurons, en plus du vin, nous aurons du jus de raisin. Pour permettre à ceux qui sont, pour des raisons médicales, ne peuvent pas prendre de vin, ou ceux qui simplement veulent continuer à rester effectivement et qui ont un souci avec l'alcool, qui puissent aussi prendre la Sainte-Cène et participer à ça, comme cela se fait aussi dans d'autres églises. Donc il y aura la possibilité d'avoir à la fois du vin et du jus de raisin. Je vous expliquerai tout en détail comment ça va se passer. Et je remercie déjà Laurence Cotard qui sera en charge de l'organisation de la Sainte-Cène pour tout ce travail, pour sa disponibilité et son investissement à ce niveau. Alors, merci de prier avec nous pour ce temps fort. Le fait de prendre une fois par mois marquera le côté solennel. Parce que quand on fait quelque chose de manière routinière, ça n'a plus tellement de rôle, vous comprenez? Et donc, c'est ce qu'on voulait introduire et c'est ce qu'on voudrait partager avec vous. Je vous remercie de prier pour le culte. prier pour ces temps. Nous avons des équipes spécifiques qui prient pour les pour que nous puissions vivre des choses fortes ensemble. Et au-delà de ce que nous vivons ici, des dizaines, des centaines d'églises sont bénies, des chrétiens, des chrétiens sont bénis et partis de ce que nous vivons ici. Nous soyons conscients de ça. Nous voulons redécouvrir ce temps de Sainte-Seine.